France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, nous saluerons Daniel Darieux qui, vous le savez, a fêté ses 100 ans le 1er mai. Martin Penet a rassemblé quelques archives sur la comédienne et sur la chanteuse que nous découvrirons en fin d'émission. Mais ce matin, j'accueille d'abord Guy Crivo-Pisco qui a longtemps dirigé le musée de la Résistance à Champigny-sur-Marne. Il nous parlera des musiques de la Résistance et sera auprès de moi dans quelques instants, le temps d'essayer, madame, votre tenue favorite pour la plage l'été prochain.
Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer aux voisins. Un, deux, trois, elle tremblait de montrer quoi? Son petit, ici, petit, tini, oui. Voilà ce qui arriva. Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de bain, car elle craignait de choquer ses voisines et même aussi de gêner ses voisins. Un, deux, trois, elle craignait de montrer quoi? Son petit, 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 savez-vous ce qui arriva? Elle doit maintenant s'élancer hors de l'onde. Elle craint toujours les regards indiscrets. C'est le moment de faire voir à tout le monde ce qui la trouble et qui la fait trembler. Un, deux, trois, elle a peur de montrer quoi? Son petit, ici, ici, vous amuse. On peut la recommencer. Si c'est pas drôle, je m'excuse. En tout cas, c'est terminé.
Eh oui, je le vois encore tourner, ce vieux 45 tours dans la maison de mon enfance. C'était dans les années 60, puisque cette chanson, il faut le rappeler, a été créée d'abord en anglais par Brian Hyland avant de devenir un succès mondial repris un peu partout. Et là, bien sûr, c'est la version française, la version de Dalida. Oui, une façon un peu légère, à ma façon, de rendre hommage à cette grande dame. Car, vous le savez, moi, là, quand elle chantait le bikini, elle connaissait peut-être pas encore tous les malheurs de la vie, mais c'est venu plus tard et elle nous a quitté Dalida il y a exactement 30 ans, le 3 mai 1987. Voilà, mais je vous le rappelle, nous fêterons un anniversaire plus joyeux en fin d'émission, les 100 ans de Daniel Darieux. En attendant, eh bien, depuis longtemps, je voulais inviter quelqu'un qui anime avec beaucoup de passion le musée de la Résistance et qui s'intéresse à tout ce qui touche à cette époque. Et la Résistance, c'est aussi une histoire musicale que nous allons évoquer aujourd'hui avec mon invité Guy Crivo-Pisco.
Thank you.
Bonjour Guy Crivopisco.
Bonjour Benoît Dutard.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous savez, vous me faites plaisir parce que vous m'avez donné l'occasion de ressortir de ma discothèque les animaux modèles, ce merveilleux ballet de Poulenc créé en 1942. Et c'est une œuvre, on peut le dire, qui, son apparence de musique française, un peu légère, est une œuvre qui a un sens dans l'histoire de la résistance en France.
C'est même après le Péléas et Mélisande qui est monté à peu près dans la même période à l'opéra et qui est chanté merveilleusement par Irène Joachim. C'est la première grande manifestation de résistance de ces compositeurs, musiciens et travailleurs de l'opéra.
Une résistance un peu dissimulée, parce que c'est une création très officielle à l'Opéra de Paris qui a lieu.
C'est une création officielle.
Avec peut-être des Allemands dans la salle, d'ailleurs.
C'est le pendant de l'œuvre de contrebande qu'avait développé Aragon en littérature.
Oui.
C'est-à-dire que sous les apparences d'une œuvre anodine, puisque le propos c'est de reprendre les fables de La Fontaine.
Oui, là c'était les deux coqs, hein, parce que chaque épisode des animaux modèles illustre une fable de La Fontaine.
Une fable de La Fontaine. Donc sous l'apparence anodine des fables de La Fontaine.
Dansée par Liffard.
En plus, dansé par Liffard, passant.
Qui lui était quand même plutôt assez proche, on va dire, du pouvoir en place.
Oui. Du pouvoir en place et même des forces de collaboration. Donc, cette œuvre de contrebande, elle ne peut pas être interdite, évidemment, mais Poulenc qui a glissé tout un tas de clins d'œil. Évidemment, on joue français et on affirme la fierté nationale et en particulier dans la célèbre marche « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ».
Voilà, qui est glissé dans un des épisodes des animaux modèles, œuvre créée en plus sous la direction de Desormières qui, comme Poulenc, était engagé dans le Front National des Musiciens.
Oui, Desormières est à l'origine, donc il est chef et de l'opéra comique et de l'opéra, des orchestres, et il est à l'origine avec un certain nombre de musiciens et de compositeurs, donc Poulenc, dès le départ, de ce petit groupe qui va rassembler et en France et à l'étranger, parce qu'ils sont en relation aux États-Unis avec Darius Milhaud et Madeleine Milhaud, rassembler l'élite de la musique française pour continuer d'affirmer une pensée musicale et une expression musicale libre.
Voilà, donc il y a des musiciens résistants, il y a des musiques résistantes diffusées par Radio Londres, mais il y a aussi une forme de résistance plus ou moins cachée et en même temps affirmée à travers la vie musicale qui se déroule en territoire occupé.
Ah oui, et très 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 vivante. Ouais. Alors, une des formes d'ailleurs, et Poulenc, on pourrait parler de l'œuvre qu'il écrit sur le poème d'Éluard Liberté.
Liberté, bien sûr.
Cette œuvre est jouée elle aussi en contrebande. Les organisateurs de concerts n'annoncent pas les bis, ce qui sera joué en bis.
Ah oui.
Et donc, Liberté d'Éluard va être joué à l'occasion d'un bis.
D'un bis, ah oui, c'est extraordinaire. Je crois d'ailleurs, à propos de Liberté, que le musée que vous avez, on peut dire, fondé et dirigé pendant très longtemps.
Pas fondé.
Enfin, auquel vous avez donné, en tout cas, son développement, on va dire. Le musée de la Résistance Nationale de Champigny-sur-Marne possède, je crois, un manuscrit de ce poème Liberté.
Le manuscrit original de Liberté d'Éluard, manuscrit au propre, avant impression. Merveilleux parce que c'est ce manuscrit sur lequel Éluard transforme le titre du poème et lui donne une résonance universelle. Puisqu'à l'origine, le poème s'appelait « Une seule pensée » et c'était un poème d'amour qu'il avait écrit un an auparavant pour Nuche. Et c'est sur le marbre, en 42, qu'il raye une seule pensée pour écrire « Liberté ».
On va revenir, Guy Crivopisco, sur votre itinéraire, sur votre travail à ce musée de la Résistance nationale. Mais vous pouvez nous redire précisément donc, qu'est-ce que c'est que ce musée, quelle est sa mission et quelle est son importance aujourd'hui?
Son importance, c'est la plus grande collection d'archives adossée aux archives nationales, puisque l'ensemble de la collection a été dévolue aux archives nationales, sur la résistance intérieure française, c'est plus d'un million de pièces.
Voilà. Dont un certain nombre visible.
Ah ben oui, alors donc actuellement visible, et un projet de développement dans 2 ans, dans un autre lieu, mais toujours à Champigny, sur les bords de Marne, face à la guinguette du Martin Pêcheur, et bien plus accessible pour les habitants d'Île-de-France, dans un très très beau bâtiment, un nouveau musée qui permettra donc aux visiteurs de découvrir la richesse
des fonds de la résistance, sur la clandestinité, sur les grandes figures, sur, j'imagine, les forces de l'intérieur, les forces de l'extérieur. Non, là, c'est seulement les forces de l'intérieur, peut-être.
C'est les forces de l'intérieur, mais nous avons des liens particuliers avec le Musée de l'Ordre de la Libération. Et donc, les liens avec la France libre sont évidemment établis.
Alors, merci en tout cas d'être avec nous ce matin, Guy Krivopisko. On va commencer par une chanson de résistance. On peut le dire, une chanson russe qui n'a pas de lien direct avec la résistance française, mais c'est un musicien que vous adorez et qui nous permet aussi de parler un peu de vous, La Chasse au loup par Vladimir Vysotsky.
Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера. И заели хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень, на снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делаются и дорвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не трогнет рука, оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции, видно в детстве слепые щенки. Мы волчата, сосали волчицу, и всосали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы дорвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же вожак дай ответ? Мы затравленно мчимся на выстрел и не пробуем через запрет. Волк не может, не должен иначе. Вот кончается время мое. Тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают псы дорвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Я из повиновения вышел за флажки, жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы дорвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.
Vladimir Vysotsky, grande figure de la chanson russe, hein, mort en 1980, qui a été le mari de Marina Vladi.
Le dernier mari de Marina Vladi, de 1970 à 1980, a un très beau coup de foudre entre deux Russes. Ouais. L'une avait opté pour la France et l'autre
était restée en Russie.
Épousait aussi ses idéaux français et en particulier celui de la liberté.
Cette chasse au loup qui vient de nous chanter, donc c'est une chanson sur la liberté.
C'est une chanson sur la liberté et c'est d'abord une très belle métaphore de la résistance puisque cette meute de loups dont il fait partie, lui, contrairement à la meute, va refuser d'être tué par les chasseurs. Voilà. Et il dit « J'ai fait acte de désobéissance et la force, la raison, la volonté de vivre a été la plus forte.
Alors là, évidemment, on est au cœur du sujet, la chanson et la résistance, même si nous sommes plutôt du côté de la Russie. Mais justement, ce côté de la Russie, c'est quelque chose qui a un sens pour vous très particulier, hein, Guy Krivopisko.
Ah oui, parce que je m'appelle Krivopisko parce que mon grand-père paternel était russe. Ouais. Et les hasards de l'histoire ont fait qu'il a découvert la France et il l'a adoptée. Mais évidemment, comme tous les immigrés qui adoptent notre pays, la culture maternelle, la langue maternelle était restée. Et donc, j'ai été aussi élevé avec cet amour de la culture russe.
Donc, vous le comprenez, en fait, Vysotsky, quand
oui,
il chante.
Oui.
Avec cette voix extraordinaire.
Oui. Alors, on oublie que c'était un comédien de théâtre, d'abord classique. Il a beaucoup joué dans de très, très nombreux films soviétiques. Il y a un cinéma soviétique dans les années 60-80, assez extraordinaire. Et puis, c'était le grand chanteur. On va dire que c'est l'équivalent de Brassens ou de Brel pour la France.
Ah oui, c'est quand même très, très important, oui. Le goût de l'histoire, il vous est venu dans ce milieu familial, presque immigré de fraîche date, même si vous étiez, vous, de la deuxième génération, comme on dirait aujourd'hui.
Ben, il est venu peut-être des deux grands-pères.
Oui.
L'un qui a margué, mais qui avait participé, était acteur aussi de la Révolution russe, parce que en 1918, il n'a pas été démobilisé. Et pour la suite de son service militaire, il faisait partie des soldats des troupes d'intervention en Russie.
Ah bon ? Contre la Révolution ?
Contre la Révolution, à Mourmansk. Voilà.
Ah oui.
Et mon autre grand-père, donc le grand-père russe, lui, fait partie de ces jeunes qui ont participé, étaient acteurs de la Révolution, qui a terminé dans la cavalerie rouge chez les bolcheviks. Mais la maladie, l'emprisonnement l'ont amené à être partant dans un bateau d'immigrés blancs pour l'Amérique, et il s'échappe en Corse. Il découvre la France, il tombe amoureux de ma grand-mère, et il tombe amoureux de la France.
Mais alors, le milieu familial avec ces deux branches, il était plutôt communiste ou anticommuniste ?
Alors, c'était un milieu communiste, communiste, et le goût de l'histoire, c'est aussi parce que même si je suis né à Paris, mon enfance est à Argenteuil.
Ouais.
Et Argenteuil, c'était la ville de Gabriel Péri. Et chaque année, au mois de décembre, pour rendre hommage à cette figure de la résistance, le Parti communiste organisait une soirée, et une soirée qui était culturelle. Et donc c'est là où j'ai découvert aussi de grands classiques du théâtre.
Ah oui.
Et ma maman était dirigeante d'un grand mouvement issu de la résistance, qui était l'Union des femmes françaises. Et là aussi, chaque année, l'hommage rendu à Bertie Albrecht, à Suzanne Buisson, la socialiste, et à Danielle Casanova, la communiste, était chaque année au théâtre de Chaillot l'occasion de découvrir de grandes œuvres du répertoire français. Et en même temps, de baigner dans cette histoire nationale et évidemment celle de la résistance.
Voilà, et donc finalement vous avez fait des études d'histoire, ça s'est présenté assez naturellement ?
Oui, ça s'est présenté naturellement, mais je voulais d'abord être cuistot.
Ah, bon, d'accord.
Mais l'histoire, c'est les rencontres avec des professeurs assez extraordinaires.
Dans tous ces spectacles que vous avez découverts à l'époque, à Argenteuil et ailleurs, est-ce que Brecht était à l'affiche, j'imagine ?
Mère Courage, et là aussi c'est une révélation, parce que c'est une pièce complexe.
Ouais.
Mère Courage, elle est dans cette situation du doute, de la réflexion. On entre en résistance quand on commence à penser par soi-même et à douter. Et Mère Courage, c'est cela.
Alors justement, à propos de Bertolt Brecht, et avant de revenir à la résistance française, là on est plutôt dans la résistance allemande, vous avez choisi, alors j'avoue, je ne connaissais pas, c'est très beau d'ailleurs, la chanson du SA de Brecht, chantée par Ernst Busch. Peut-être juste un mot avant de l'écouter ?
Alors la chanson du SA, elle est écrite en 31, fait partie de ces chants que Brecht et Eisler écrivent pour le mouvement anti-nazi.
Le grand Eisler d'ailleurs, merveilleux compositeur.
Oui, on en parlera. Et Ernst Busch, qui était un comédien et chanteur important de la scène berlinoise antifasciste, on y reviendra peut-être, à un parcours extraordinaire parce qu'il fuit évidemment le nazisme. Il va participer dans les brigades internationales à la défense de la République espagnole. Il va être pris à son retour des brigades, interné à Gurs. Il tente de s'évader, il est repris et il va continuer une forme de résistance à la libération dans une Allemagne dont les espoirs étaient qu'elle devienne démocratique.
Als mir der Magen knurrte, schlief ich vor Hunger ein. Da hört ich sie ins Ohr mir Deutschland erwache schreien. Da sah ich viele marschieren, sie sagten ins Dritte Reich. Ich hatte nichts zu verlieren, ich lief mit, wohin war mir gleich. Als ich marschierte, marschierte neben mir ein dicker Bauch. Und als ich Brot und Arbeit schrie, da schrie der Dicke das auch. Ich wollte nach links marschieren, nach rechts marschierte er. Da ließ ich mich kommandieren und lief blind hinterher. Und die da Hunger hatten, marschierten matt und bleich zusammen mit den Satten in irgendein drittes Reich.
La chanson du SA de Brecht et Eisler, chantée par Ernst Busch. Donc, la façon dont au fond les SA débauchent les pauvres ouvriers.
En leur promettant simplement du pain.
Voilà,
en leur promettant du pain et un empire, donc un rêve de gloire. La chanson montre que ce SA n'est pas dupe, mais pour autant, il a faim.
Bien sûr. Et donc, Eisler, qui a écrit la musique, personnage que vous aimez beaucoup aussi.
Que j'aime beaucoup, parce que... alors, pour une autre raison, sa symphonie allemande et tout, etc., c'est extraordinaire. Mais ce qui nous relie à l'histoire allemande de l'antifascisme et à notre histoire française, dans cette période, en 1935, il est exilé à Londres, avant de partir pour les États-Unis, et il reçoit un des auteurs du Chant des Marais. Donc composé dans les tout premiers camps de concentration où étaient internés les antifascistes allemands. Un de ces antifascistes arrive à s'échapper et sort d'Allemagne avec ce chant qu'il porte à Eisler. Et Eisler le mélodise et ce chant va devenir un des chants de la brigade Thalmann, donc de ces antifascistes allemands qui vont combattre pour la République espagnole. Ce chant, évidemment, arrive en France au moment du Front populaire, et elle va être chantée comme un des grands chants de solidarité avec ces anti-nazis qui sont dans les camps. Ce chant, malheureusement, nombre de résistants vont le redécouvrir avec la déportation.
Alors, une histoire que je trouve vraiment extraordinaire aussi, que vous connaissez bien, Guy Krivopisco, c'est ce destin curieux, justement, de la Marseillaise, notre hymne national, sous l'occupation. Voilà une chanson que tout le monde chantait jusque-là, dans les écoles de France, etc. Et puis, qui en réalité, contrairement à ce que je croyais, d'ailleurs, ne perd pas du tout son statut d'hymne national sous le régime de Vichy.
Pas du tout. Pas du tout, comme les trois couleurs, le drapeau tricolore, celui de la France,
de
la République,
reste
officiel. Reste officiel, et c'est la perversité du régime de l'État français d'avoir conservé et les trois couleurs et le chant national, mais en même temps de l'avoir réservé uniquement aux cérémonies officielles à Vichy et de l'avoir interdit sur l'ensemble du territoire, évidemment avec la bénédiction des autorités d'occupation.
C'est ça, c'est et le paradoxe, donc, la Marseillaise est donc à la fois autorisée et interdite, on peut dire.
Ah oui, il n'y a que le chef de l'État, et au moment des cérémonies officielles à Vichy, ouais, qui peut faire jouer la Marseillaise. Et donc, de jouer la Marseillaise, de la chanter, est un acte de résistance, parce qu'on encourt la répression. Et donc, les résistants vont se réapproprier ce chant et lui redonner son contenu, qui ouais, est un contenu à la fois patriotique, pas nationaliste, patriotique, un chant révolutionnaire, parce que c'est un chant qui a un contenu social très fort. On ne connaît que la première strophe, mais nombre des strophes, je ne sais pas, guerre au château, paix aux chaumières. Et oui, contenu très très fort. Et puis contenu universaliste, parce que, évidemment, c'est un chant de fraternité et il a été entendu comme tel par les plus grands intellectuels allemands dans la période, en premier lieu Goethe.
Alors c'est extraordinaire, parce que donc, ça veut dire qu'au même moment, des officiels à Vichy peuvent chanter la Marseillaise et d'autres peuvent être arrêtés pour chanter la Marseillaise à Paris ou ailleurs dans une manifestation qui se veut plus ou moins résistante.
Oui, la petite amie de Guy Moquet, Odette, est arrêtée à l'été 1941 avec nombre de jeunes qui manifestaient sur les grands boulevards à Paris, simplement avec un drapeau tricolore et en chantant la Marseillaise. Et elle finit au camp de Châteaubriand pour cela.
Le chant des partisans, alors c'est évidemment l'autre morceau emblématique de cette période. Alors là, pour le coup, il n'est pas du tout autorisé. Mais on va d'abord écouter la version russe chantée par Anna Marley. Donc peut-être, on en redira un mot après, mais vous nous rappelez quelle est donc cette première version, comment elle a vu le jour?
Anna Marley, de son vrai nom Bietulinski, est une immigrée,
comme vous, oui,
émigrée
voilà,
russe, mais émigrée russe blanche.
Oui.
Et elle choisit la France dans les années 20.
Oui.
Et en 1940, elle va choisir la France libre. Mais en 1942, donc elle est à Londres, engagée dans les forces françaises libres. Et en 1942, elle entend qu'à Smolensk, des partisans russes ont repris l'offensive contre la Wehrmacht. Il n'y a qu'elle qui peut comprendre ce que veut dire Smolensk en 1942. Elle est la descendante de Lightman Platov, le chef cosaque, qui, en 1812, à Smolensk, conduisait la cavalerie cosaque, appuyée par les paysans partisans, levés par le général Kutuzov. Et donc, elle fait le pont entre cette révolte et cette résistance nationale en 1812 et cette résistance nationale patriotique en 1942.
Donc cette version russe qu'on va entendre maintenant, elle ne fait pas référence directement dans les paroles à la résistance française, au fond.
Non, c'est un chant de résistance pour ses compatriotes soviétiques, voilà, elle, l'immigrée russe. Et ce chant va être entendu un an après par Druon, Kessel, Freinet, Dastier de la Vigerie, de passage à Londres. Et l'entendant, ils disent, il nous faut un chant, ce chant, pour la résistance française.
От леса до леса дорога идет вдоль обрыва. А там высоко где-то месяц плывет торопливо. Пойдем мы туда, куда ворон не влетит, зверь не входит. Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит. Народные мстители мы отобьем злую силу. Пусть ветер свободы засыплет и нашу могилу. Пойдем мы туда, куда ворон не влетит, зверь не входит. Не
Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит. От леса до леса дорога идет вдоль обрыва. А там высоко где-то месяц плывет торопливо.
Anna Marly, donc dans cette première version du Chant des Partisans, Anna Marly qui a depuis vécu très âgée, après avoir beaucoup voyagé, hein, elle est morte il n'y a pas tellement longtemps.
Non, 2006.
2006, voilà. Elle a même écrit d'autres chansons qui sont devenues des succès, par la voix de Leonard Cohen et John Baez, notamment.
Ah bah, la complainte du Partisan, voilà. Sur un texte d'Emmanuel Dacier de la Vigerie, et qui a retrouvé une actualité au moment de la guerre du Vietnam avec John Baez et Leonard Cohen. Tout le monde connaît « Les Allemands étaient chez moi, ils m'ont dit résigne-toi ». Mais je n'ai pas pu. C'est Anna Marly.
C'est aussi Anna Marly, donc qui a écrit la musique des Chants des Partisans, les premières paroles, et donc ensuite Kessel et Druon ont créé les paroles que nous connaissons tous sur cette même chanson. Mais Anna Marly, je suppose qu'elle était d'accord, mais pourquoi est-ce que c'est pas elle qui a enregistré la première version et plutôt Germaine Sablon à ce moment-là? De la version française. Donc.
La version française, parce que l'histoire est simple. Quand Kessel a dit « il nous faut ce chant pour la France », ils se sont séparés, chacun avec l'objectif d'écrire un texte en français.
Ouais.
Anna Marly va écrire un texte
elle
en français.
Elle aussi écrit une autre version. Voilà. Encore. Ah oui.
Et ils se retrouvent chez Germaine Sablon. Kessel donne son texte à Germaine Sablon, qui le chante. Et Anna Marly... après, témoignera en disant « ce texte était tellement plus beau que le mien que je n'ai pas osé présenter celui que j'avais écrit ». Et donc, comme c'est Germaine Sablon qui avait d'abord donné
cette version-là,
c'est Germaine Sablon, elle aussi très engagée
dans la résistance,
dans la résistance et la France libre.
Voilà, il faut rappeler parce que on a toujours une image d'un Paris sous l'occupation très frivole et quand même très très conciliant avec l'occupant, mais il y a eu aussi des chanteurs dans la résistance, un certain nombre, dont en particulier Germaine Sablon,
qui a contribué grâce à sa voix, mais elle n'est pas la seule. Des comédiens, des journalistes et tout ont écrit certainement des pages merveilleuses de la radio.
On va aussi peut-être revenir une seconde à cette affaire Debussy que je trouve fascinante, parce que là, ce que je trouve très intéressant, c'est la façon dont un même musicien peut être utilisé par les deux camps adverses, c'est-à-dire d'un côté, justement, la collaboration, de l'autre, la résistance.
Ben, c'est la même histoire que la Marseillaise.
Ouais, ouais.
L'État français est obligé, puisqu'il affirme à la population qu'il est cet État qui maintient la souveraineté nationale, il est obligé de donner des gages.
Jouer sur les valeurs de l'histoire culturelle française.
Les trois couleurs, d'où la Marseillaise maintenue, et de mettre en valeur un patrimoine français, pour donner le change. Et pour les musiciens résistants, et on revient à Desormières, à Irène Joachim, et à ce groupe de musiciens et compositeurs résistants, jouer et chanter Debussy, c'est faire entendre l'expression de la musique française qui est quelque part écrasée par la musique wagnérienne amenée par l'occupant.
Donc il y a un double sens dans cette création très connue, notamment l'enregistrement effectivement de Desormières, qui est la version de référence de Péléas. C'était vécu de façon différente, y compris d'ailleurs, je crois, aussi au sein de l'Opéra de Paris, où le mouvement de la résistance était très présent. Hein.
Ah, très 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 présent dans tous les corps de métier.
Oui, c'est ça. À tel point qu'inversement, dans certaines créations d'opéra allemand imposées par l'occupant, on ajoutait des fausses notes.
On jouait des fausses notes, on ralentissait le tempo, etc., etc. Finalement, pour que nos auditeurs nous comprennent, tout le monde a encore en tête les premières minutes de La Grande Vadrouille.
Oui, oui, bien sûr. J'ai pensé quand vous avez parlé de l'opéra.
Oui, mais c'est un condensé.
Oui.
C'est un condensé de cette résistance à l'opéra, et pas tout à fait pour rien, parce que le compositeur qui écrit la musique de La Grande Vadrouille est aussi directeur de l'opéra au moment où le film est tourné, et il faisait partie du groupe de compositeurs musiciens résistant du Front National des Musiciens.
Et il s'agit de
Georges Auric.
Voilà.
Et donc, il est évident que, je pense que Georges Auric, directeur de l'opéra, au moment où est tournée La Grande Vadrouille, a aussi donné tous les arguments qu'il fallait au réalisateur, à Gérard Houry, pour tourner ces scènes, mais qui illustrent bien, c'est un condensé de cette résistance à l'opéra.
Alors, restons justement tiens, dans le registre de la comédie, avec un des grands chanteurs comiques de l'époque, alors qui lui n'est d'ailleurs... pas dire que ce soit un chanteur résistant, je crois même qu'il a eu quelques petites mises en garde à la Libération, mais néanmoins il a un talent fou et il a écrit des quantités de chansons sur le marché noir. Il s'agit de Monsieur Georgius, ici en 1943.
Phénomène, tiens-moi la main, mon petit Jean. 3 francs seulement, c'est une aubaine. Nous en aurons pour notre argent. Oh, qu'est-ce que ça, papa? Ça, c'est le célèbre Boustou qui mange du fer du caoutchouc. Hier, il a fait la dinette avec les pneus de sa bicyclette. Il mange aussi des gros cailloux, des pavés en bois et des clous. Ne laisse pas traîner un marteau, il l'avalerait comme un gâteau. Il n'est pas inscrit chez le grémier, il a son tour chez le quincailler. C'est la galerie des phénomènes, tiens-moi la main mon petit Jean. 3 francs seulement c'est une aubaine, nous en aurons pour notre argent. Oh, qu'est-ce que ça, papa? Ça, c'est le derviche tourneur. Il tourne sur lui-même 1 heure. Et puis sur des rasoirs, il danse et se transperce avec une lance. Ensuite, il se met dans un cercueil. On s'apprête à porter son deuil. Mais il sort frais comme une alouette et tourne encore comme une girouette. Maintenant, il faut dire ce qu'il faut. Il était tourneur chez Renault. C'est la galerie des phénomènes. Tiens-moi la main, mon petit Jean. 3 francs seulement, c'est une aubaine. Nous allons pour notre argent. Oudi, qu'est-ce que ça, papa? Ça, c'est le coin des animaux. Le poney qui a une tête de veau. Le taureau qui est né qu'une chatte. Le fameux mouton à 5 pattes. Regarde comme il est dodu. Il lui faut des soins assidus. On le surveille matin, n'est-ce pas, à cause des gars du marché noir. Sur lui, s'il mettait l'embargo, 5 pattes, ça leur ferait 5 gigots. C'est la galerie des phénomènes. Tiens-moi la main, mon petit Jean. 3 francs seulement, c'est une aubaine. Nous en avons pour notre argent. C'est joli, hein? Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, ça ne va pas, tu ne dis plus rien, Jeannot, voyons. Oh, non. Papa, ça ne m'amuse pas du tout. Des phénomènes, il y en a chez nous. Maman qui n'a plus de savonnette, à la pierre qu'on slope des chaussettes. Ma tante a une barbe de sapeur. Mon oncle fume des feuilles de chou-fleur. Et toi, avant hier, qui criais, je ramène 3 carottes sans ticket. Quand ta grand-père qui était fou, maintenant il est devenu zazou. C'est notre galerie des phénomènes. Papa, rentrons à la maison. À notre époque, c'est un coup de peine. Y'a que les gosses qui gardent leur raison.
Qu'est-ce que ça, papa, par Georgius et l'orchestre de Pierre Chagnon en juin 1943. Moi, je le trouve formidable. Je ne sais pas si vous aimez Guy Fiorisco.
Moi, j'aime énormément parce que c'est non seulement un chanteur qui a une verve, qui est en plus du swing, qui exprime assez bien cette gouaille qu'on va retrouver aussi chez les résistants, parce que les résistants, c'est pas des gens tristes.
Non.
C'est pas du tout des
c'est
gens tristes.
C'est important de le dire,
effectivement. Mais au contraire, ils résistent parce que ils aiment vivre, ils aiment rigoler et tout. Et quelque part, c'est des chansons comme, sur le marché noir, comme celle de Georgius, elles sont très, très populaires parce que, effectivement, tout le monde a faim, mais une des manières aussi de dépasser, ou la meilleure manière de critiquer, c'est l'humour.
C'est l'humour, certainement.
Alors,
évidemment, il aura des petits ennuis à la Libération, le cher Georgius. Hein. Bon, enfin, disons qu'il voilà, il pourra pas chanter pendant quelques temps. Il écrira des romans noirs, puis après, il reprendra sa carrière.
Il reprendra. Mais il avait écrit, à l'arrivée d'Hitler au pouvoir, une très très belle chanson qui s'appelait « Le petit peintre ».
Oui.
qui est une parodie
du petit peintre pas très doué qui est devenu un monsieur très méchant. Oui, je crois que c'était vraiment un esprit libre, cet excellent Georgius. Vous avez des documents phonographiques au musée de la Résistance nationale?
Oui, et ça c'est une richesse parce que les musées d'histoire et particulièrement le nôtre, c'est vraiment des musées d'ethnographie où
tous les supports sont intéressants d'une certaine façon.
L'histoire c'est la vie. Si on oublie ces sujets aussi importants que sont la chanson ou la musique, on passe à côté de la compréhension essentielle de cette période.
Alors aujourd'hui, on le sait, les Français parlent beaucoup, beaucoup l'anglais. À l'époque, il y avait encore certains Anglais qui parlaient très bien le français. Et j'ai ressorti cette petite archive pour ponctuer notre conversation. Je trouve ça très touchant.
Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Pendant plus de 30 ans, dans la paix comme dans la guerre, j'ai marché avec vous et je marche encore avec vous aujourd'hui sur la vieille route. Cette nuit, je m'adresse à vous dans tous vos foyers, partout où le sort vous a conduit. Et je répète la prière qui entourait vos louis d'or. Dieu protège la France. Ici, chez nous, en Angleterre, sous le feu du Boche, nous n'oublions jamais quel lien et quelle attache nous unissent à la France. Nous continuons à lutter de pied ferme et d'un cœur solide. Pour que la liberté soit rétablie en Europe, pour que les braves gens de tous les pays soient traités décemment, et pour amener ainsi le triomphe de la cause qui nous a fait ensemble tirer l'épée.
Le grand Winston Churchill, Guy Crivopisco, là, évidemment, on est passé de l'autre côté de la Manche.
Là, je suis ému. Mais on oublie toujours que Churchill, c'était un homme d'une culture immense. C'était un créateur. Ouais. Heureusement que le musée de l'armée, il n'y a pas très longtemps, avec une belle expo de Gaulle, Churchill, nous a fait redécouvrir que c'était un écrivain, que c'était un peintre, que c'était vraiment un homme de culture immense. Et justement, ça donne un homme politique de
première
immense
envergure. Alors là, évidemment, oui, nous sommes à la BBC. Et donc, voilà aussi, à côté de ce qui se passe en France, de la résistance plus ou moins dissimulée entre les mots, là, par contre, il y a toute une production de musique de résistance beaucoup plus explicite à destination des auditeurs français.
Oui, d'abord parce qu'il y avait le service des émissions en français de la BBC qui avait tout de suite après le Dunkerque récupéré un certain nombre de Français pour des émissions à destination de la France. Et puis l'arrivée de Gaulle et la création de la France libre amène la BBC à réserver aussi un temps de parole et un temps d'émission à la France libre.
Et un temps de chansons.
Et un temps, évidemment, parce que la guerre, elle se gagne parce qu'on a de l'humour, c'est-à-dire parce qu'on est optimiste et parce qu'on aime la vie. Et l'idéologie nazie est une idéologie mortifère, celle des fascistes, elle est mortifère. La résistance, c'est l'amour et c'est la vie. Et donc, ça s'exprime. Alors, une des voix les plus célèbres qu'on a oubliées, parce que c'est Maurice Van Mopes qui va écrire plus de 40 chansons, dont des célèbres paroles sur la cinquième de Beethoven. Ah oui. Mais reprendre le patrimoine...
La chanson des V, non ?
La chanson des V. Oui. Reprendre aussi le patrimoine de la chanson enfantine. Il court, le Laval,
oui, c'est ça,
etc., ouais. etc.
Hitler, yop la boum.
Hitler, yop la boum, voilà.
Donc tout ça, c'est du détournement, hein.
C'est le détournement, c'est voilà. Le détournement, et ça, effectivement, ça a beaucoup d'audience, parce que on a besoin de rire pour vaincre.
De rire même sur le drame.
Oui.
Et c'est ce que va faire fort bien, évidemment, Pierre Dac. Donc, qui, lui, n'est pas oublié, pour le coup, avec ses célèbres émissions de Radio Londres.
Oui, alors, ce qu'on oublie aussi pour Pierre Dac, et ça, moi, c'est un homme que je trouve d'un courage immense. On oublie qu'il met 3 ans pour parvenir à Londres. Avec
un itinéraire compliqué.
Un itinéraire, et puis un enfermement en Espagne, très dur, où il va y laisser sa peau. Donc, de 40 à 43, il n'a que cette volonté de rejoindre Londres et la France libre. Il y arrive.
Et comment est-ce qu'il devient le chansonnier de la radio, au fond?
Parce que c'était un des chansonniers les plus célèbres avant-guerre, à l'égal de Georgius.
On va écouter, vous avez choisi La Défense élastique.
Ça nous ramène à la Russie.
Oui. Ah, voilà.
Ça nous ramène à la Russie. Et puis, c'est, je crois, d'une subtilité, c'est qu'il démontre, c'est qu'à partir de Stalingrad, toute la propagande de l'État français et de l'occupant, c'est d'expliquer que toutes les reculades sont des victoires. Et donc, La Défense élastique, c'est de jouer sur...
Un jour Adolf Hitler, promenant sous le Dnieper, a dit, je vais vous montrer, j'ai du flair. J'ai compris tout à coup que la défense avant tout devait être montée sur caoutchouc. Ma méthode est basée sur l'élasticité. Un, deux, trois, je vais vous l'expliquer. Chaque pas en avant doit être immédiatement suivi la chose éclair de 15 pas en arrière. Puis de manière adroite, l'aile gauche lisse sur l'aile droite. Pendant que l'aile droite ébauche, un virage sur l'aile gauche.
Ah, 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 ah,
c'est la défense élastique.
Ah, 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 ah,
y'a rien de plus chouette que ce truc-là. C'est non seulement génial, mais encore radical, et bien plus actif que le Véronal. L'astuce, de toute façon, est de donner l'impression de faire de la progression à reculons. Faut déployer de l'adresse, plus encore de souplesse, mine de rien, coûte au corps en vitesse. Quand une brèche se produit sur un point du circuit, on fait une épissure qui colmate la fissure. Pour ne pas être accroché, suffit de se décrocher et d'opérer son repli avant que ça ne fasse un pli.
Ah, 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 ah,
c'est la défense élastique.
Ah, 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 ah,
y'a rien de plus chouette que ce truc-là. Défendre élastiquement nécessite constamment qu'on se garde derrière pour prendre les devants. Bref, l'avance dans le recul est un fameux calcul qui prouve bien que sans rien, tout est nul. C'est une formule heureuse qui permet, sans qu'on se creuse, d'annoncer une défaite victorieuse. L'offensive à l'envers, ça démontre à l'ennemi qui vous regarde de travers qu'on court plus vite que lui. À quoi bon se colter avec les bolcheviks? Vaut bien mieux les lâcher avec un élastique.
Ah, 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 c'est la défense élastique. Ah, 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 y'a rien de plus chouette que ce truc-là.
Et comme vous le disiez à l'instant hors antenne, Guy Crivopisco, c'est vrai qu'en plus, même quand on dansait simplement la plus basse des Java, on pouvait imaginer les paroles de Pierre Dac, ce qui était une forme de résistance silencieuse.
Et ça, c'est formidable d'imaginer. Moi, je pense que nombre de jeunes qui continuaient à danser dans des bals clandestins, parce que même danser était interdit, bah, la plus basse des Java résonnait.
Résonnait avec Pierre Dac.
Résonnait avec Pierre Dac.
En tout cas, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu comment, donc, après vos études d'histoire, vos premières années d'activité professionnelle, etc., vous avez été amené à prendre en main, si j'ose dire, en 1985, le musée de la Résistance nationale. Jusqu'à cette année, vous venez, je crois, de quitter vos fonctions pour une retraite bien méritée.
Tout à fait, merci.
Néanmoins, voilà, vous avez, alors, on parle de fidélité à l'histoire de France, mais vous, la fidélité à ce lieu, elle a été extraordinaire. C'est rare de rester au même poste pendant aussi longtemps et avec un tel engagement. Voilà, ça a été l'histoire de votre vie, un peu. Hein.
Parce que, d'abord, je suis devenu conservateur tout à fait par hasard.
Oui.
C'est de la même manière que j'ai engagé des études d'histoire, c'est un professeur en Cagne.
Parce que vous ne pouviez pas faire cuisine.
je pouvais pas faire cuisine et puis que j'ai rencontré un professeur d'histoire en Cagne extraordinaire qui était Germaine Villard et qui elle-même avait été résistante. Et en 1981, alors qu'elle avait la direction scientifique de ce musée à naître en 1985, elle a fait appel à ses anciens élèves. Et c'est le plus grand des hasards qui fait que parmi ses anciens élèves, je suis le seul à avoir
répondu
à l'idée d'engager des études de conservateur.
Eh oui, il fallait d'abord passer par le
cursus. Et là, j'ai fait mes classes avec un maître, un des grands conservateurs français, qui était Jean Rollin, qui a créé le musée d'art et d'histoire de la ville de Saint-Denis, musée exceptionnel. Et Jean Rollin avait été résistant, critique d'art aux lettres françaises, etc. Et donc, il y a cette conjonction. Et puis, la résistance, elle a baigné toute mon enfance. Mais elle m'a passionné parce que un musée de la résistance, comme celui-ci, c'est des milliers et des milliers de gens, de femmes, d'hommes, extraordinaires. Hors antenne, nous évoquions Jean-Louis Crémieux-Briac.
Voilà, qui était très associé au musée
Il présidait le conseil scientifique de notre musée. Et la rencontre avec ces gens-là, c'est un enrichissement continuel. Et donc, je ne pouvais pas partir parce que chaque fois, chaque jour, je découvrais d'autres choses, je grandissais, je m'améliorais. Et donc, c'est un bonheur.
Voilà, donc vous vous êtes attaché à cette maison, à ces gens, à cette histoire, et vous avez constitué peu à peu la plus grande partie des collections, qui, j'imagine, au départ, étaient assez modestes.
Oui. Elles ont quintuplé.
Quintuplé, voilà.
Voilà. Mais elles ont quintuplé parce que, aussi, cette histoire, elle est portée très, très fortement par nos concitoyens.
Oui.
C'est un moment qui reste un des moments forts dans la culture et l'imaginaire
français, oui,
français à l'égal de la Révolution française ou d'autres, quelques autres moments. Les rappeler. Ces moments sont essentiels.
Oui, surtout qu'il y a toujours la tendance à ce que dans l'imaginaire, la collaboration soit plus importante que la résistance. Vous préférez
Mais
mettre en avant la résistance.
C'est souvent ce qui me met en colère. Oui. Parce que ce pays, à ce moment-là, a une histoire extraordinaire. Nous sommes le seul pays d'Europe à n'avoir pas connu de guerre civile à la libération. Parce que la résistance, c'était avant tout une idée politique de la création d'une nouvelle société. Et qu'elle avait réussi à convaincre, durant 4 ans, une immense majorité de la population. Et donc, on est le seul pays d'Europe qui ne vit pas dans la guerre civile à la libération et qui a su se rassembler autour de choses merveilleuses et qui a reconstruit ce pays en créant des choses merveilleuses. On va terminer avec les maisons de la culture, par exemple.
Oui, bien sûr. On va revenir un instant à la place des compositeurs classiques et contemporains de l'époque, du moins, dans cette période, avec une musique que vous aimez beaucoup, je crois, mais alors qui n'a pas de rapport direct avec notre sujet, simplement ça a un rapport direct avec vous, c'est le premier quatuor de Forêt.
C'est avec un professeur qui était un éminent serviteur de la musique de Gabriel Fauré que j'ai commencé à apprendre le piano et je ne me lasse jamais d'écouter du Gabriel Fauré.
Thank you.
Le premier quatuor de Gabriel Fauré avec Renaud Capuçon, Gérard Cosset, Gauthier Capuçon, Michel D'Alberto. Musique que nous aimons tous les deux avec mon invité aujourd'hui, Guy Crivopisco, longtemps, très longtemps, directeur du musée de la Résistance à Champigny-sur-Marne. Musée qui accorde d'ailleurs, comme toute votre activité, une grande place aux arts et pas seulement donc à la conservation d'objets ou de documents. Vous avez même été associé à pas mal de manifestations musicales autour de Millau, Messiaen, Dutilleux, Ullmann, etc., etc., Guy Crivopisco.
Champigny était est toujours aussi le creuset d'activités culturelles assez extraordinaires. Ouais. L'ensemble de The Deuxième et Paul Méphano. Paul Méphano.
Fixé à Champigny.
Est fixé à Champigny. Et donc, j'ai même été un temps administrateur de l'ensemble à la demande de Paul. Et c'est grâce à Paul Méphano et à l'ensemble que l'on a commencé à travailler cette histoire, non seulement des musiciens résistants, mais aussi de cette création musicale dans la déportation.
Oui.
Et c'est avec lui que j'ai rencontré Madeleine Millau ou Henri Dutilleux.
Voilà.
Et des rencontres là aussi fabuleuses. Alors, ce qu'on ne sait pas, Henri Dutilleux a déposé le manuscrit d'une œuvre merveilleuse, écrite en 1945 à la Libération, qui est la chanson de la déportée.
Très belle mélodie que j'ai entendue.
Très belle mélodie.
Et qui complète, alors on peut dire, l'œuvre qu'il a quasiment fait connaître, les sonnets de Jean Cassou, qui sont aussi une œuvre de la Résistance, parce qu'il faut rappeler qui est ce poète Jean Cassou et quel rôle il joue à ce moment-là.
Grand conservateur de musée.
Oui.
C'est quand même le père du musée d'art moderne, et donc le père du Centre Georges Pompidou. Hein, oui. C'est vraiment le grand conservateur, résistant dans les groupes liés aux intellectuels du Musée de l'Homme et qui va devoir se réfugier sur Toulouse, continuer la résistance à Toulouse. Il est arrêté et dans les cachots, il va composer de tête des sonnets. Et ces sonnets, il va les sortir avec lui, dans sa tête. Et ils vont être publiés par les éditions de Minuit. Henri Dutilleux était un des diffuseurs des éditions de Minuit et c'est comme ça qu'il découvre les poèmes de Jean Cassou dans la clandestinité. Il en choisit un, La Joule, qu'il met en musique et qui sera donc joué clandestinement, en particulier dans les studios clandestins de Pierre Schaeffer.
Ah oui.
Où on prépare les émissions musicales
pour radio.
La radio de la Libération.
Ben oui, bien
voilà,
sûr.
C'est donc c'est des histoires fabuleuse.
Vous avez suivi, Guy Crivopisco, la polémique assez déplaisante, me semble-t-il, récemment, autour du fait que, à un moment donné, la ville de Paris, sur le point d'inaugurer une plaque Henri Dutilleux, a fait annuler l'opération parce que Henri Dutilleux avait composé une musique de film commandée sous l'occupation par le pouvoir en place à Vichy.
Oui, et je suis intervenu, comme des milliers et des milliers d'autres, je pense que vous aussi.
Oui.
Mais je suis intervenu parce que j'ai bien connu Henri Dutilleux. J'ai beaucoup travaillé avec lui sur cette histoire de la résistance des musiciens et compositeurs durant la guerre.
À laquelle il était étroitement
lié. Et donc, je peux attester la véracité de son engagement en résistance. Et donc, c'était indigne.
Et par ailleurs, écrire une musique de film pour un jeune compositeur, pour une commande documentaire, c'était pas non plus
Donc, ce n'est pas un film de collaboration.
Absolument.
Et oui, les musiciens doivent cachetonner aussi pour manger.
Voilà.
Voilà. Donc, il n'y avait rien de bien grave. Sinon, tout Français encore vivant, durant l'occupation, a collaboré parce que
il a travaillé,
ce travail était détourné et utilisé.
Oui, vous avez raison. D'ailleurs, la ville de Paris a fait amende honorable depuis et finit.
Oui, ça s'est très bien terminé. Donc maintenant, il y a une plaque.
Alors, en préparant cette émission, vous m'avez fait découvrir une autre œuvre contemporaine d'un compositeur que j'avoue, je connais très très peu et j'étais très séduit, je dois dire, par ces oiseaux de Manos. Hadjidakis, compositeur grec de la génération de Théodorakis. Hein.
Oui.
Je ne sais pas s'il a vraiment une place dans notre sujet d'aujourd'hui, mais je trouve ça extraordinaire.
Alors pour moi, il en a une d'abord parce que j'ai découvert ce compositeur l'année de la chute de la dictature des colonels en Grèce. Et la première manifestation du peuple grec libéré, ça a été de faire rejouer les oiseaux.
D'après la pièce antique d'Aristophane.
Oui, et donc le peuple d'Athènes était à Épidaure, dans ce théâtre antique fabuleux. Et pour la première fois depuis 20 ans, redécouvrait l'humour, la parodie et l'espérance avec cette musique de Hadjidakis. Mais Manos Hadjidakis, vous le connaissez, tout le monde le connaît. C'est lui qui a écrit « Les enfants du Pirée ».
Ah oui, évidemment, oui.
Et plein d'autres, et plein d'autres chansons.
Et, oui.
Et plein d'autres musiques chantées par Nana Mouskouri, Mélina Mercouri.
Justement, c'est comme Théodorakis, on le connaît pour Zorba le grec, mais on ne sait pas que c'est un grand compositeur.
Voilà, et donc c'est les deux grands compositeurs grecs, Théodorakis et lui, et qui sont le symbole de cette résistance du peuple grec durant l'occupation nazie et durant
le régime des colonels.
Le régime des colonels.
Manos Hadjidakis, Les oiseaux, on a envie d'entendre toute la pièce extraordinaire avec ces mélanges de genres. Oui, dites-moi Guy Krivopisco.
Et signaler que Béjart a créé un de ses très très grands ballets sur cette musique peu après son écriture.
Alors aujourd'hui, donc on l'a dit tout à l'heure rapidement, voilà, vous avez pris un peu vos distances avec la vie professionnelle, le musée bien entendu continue, mais finalement ce départ après tant d'années consacrées à ce musée, j'ai envie de dire, il coïncide un peu aussi avec la fin même de toute cette génération de résistants extraordinaires qui vous ont aidé à le construire, non ? Parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu une page de l'histoire qui se tourne du fait même du passage du temps.
Oui, mais ce passage est aussi formidable parce que le flambeau, il est repris par des jeunes.
Ah oui.
Quand on a ouvert le musée en 1985, la moyenne d'âge de l'équipe était de 40 ans. 32 années après, la moyenne d'âge est de 40 ans. Et donc c'est une jeune équipe avec un de mes jeunes collègues, chercheur Thomas Fontaine, qui reprend le flambeau. Et autour d'eux...
Mais il n'y aura plus les compagnons de la libération.
Non, mais on les a avec les témoignages. Et ce qui est formidable pour nous, pour eux surtout, jeunes, à la manière des archéologues, maintenant, il va falloir faire vivre ces témoignages.
Ouais. Vous continuez-vous à écouter de la musique, à préparer d'autres choses autour de la résistance à...
Oui, alors j'écoute de la musique, mais je souhaiterais faire et rendre un hommage particulier à 5 femmes de la résistance française d'origine russe.
Ça, c'est votre but prochain. Vous nous dites les noms ou on les découvrira un peu plus tard?
Elsa Triolet.
Bien sûr.
Elsa Kagan. Hélène Morkovitch, c'est Hélène Vianney, Défense de la France. Vera Obolensky. C'est Vicky, et c'est la naissance de l'OCM. Mère Marie Skopsov, qui vient de se voir attribuer une rue à Paris, une de ces religieuses qui vont faire sortir des enfants du Veldiv, qui va prendre la place d'une déportée à Ravensbrück pour aller à la chambre à gaz. Et puis Anna Marley, évidemment.
Bien sûr, qu'on a évoqué aujourd'hui avec vous. Ben alors, on vous donne rendez-vous pour ce nouveau projet. Et puis, on se quitte avec une autre femme, qui est aussi d'ailleurs une femme de la résistance, Joséphine Baker, comme on disait quand j'étais petit, ou Baker, comme on dit aujourd'hui.
Et comment? Et elle est de la résistance de tout temps.
Oui.
Parce qu'elle est d'abord à l'origine de créations extraordinaires. Enfin, je ne pense pas que la musique de jazz soit devenue si populaire en France sans l'apport de Joséphine Baker. Mais on oublie que cette femme va s'engager dans la France libre, mais elle va continuer aussi un combat fondamental au plan international, le combat contre le racisme et l'antisémitisme. Elle était militante de la LICRA. Et c'est elle qui, en costume de Française libre, prend la parole juste avant Martin Luther King en 1963 pour affirmer les droits à l'égalité de tous les individus.
Donc toutes les résistances se rejoignent.
Et voilà.
Merci de nous l'avoir expliqué ce matin, Guy Krivopisco. À bientôt.
Merci.
On dit qu'on est l'un des mers, là-bas sur le ciel clair, il existe une cité, en séjour enchantée. Est-ce les grands arbres noirs, chaque soir, mon espoir. J'ai deux amours, mon pays et Paris, par toujours, mon cœur est ravi. La savane est belle, mais à quoi bon
Joséphine Baker, pour terminer cette évocation musicale de la résistance que je vous proposais ce matin avec mon invité Guy Krivopisco. Inutile de vous dire que je vous recommande aussi de vous rendre au musée de la résistance nationale, 88 avenue Max Dormoy à Champigny-sur-Marne. C'est ouvert tous les jours, ou presque, en tout cas cet après-midi, par exemple. Tout le reste des informations sur Internet.
Benoît Dutertre. Étonnez-moi Benoît. France Musique.
Et avant de retrouver la chronique de Martin Péné, allons donc faire un petit tour au Brésil.
Thank you.
Bolé Bolé, enregistré par le grand musicien brésilien Jacob do Bandolim. C'était en septembre 1951. Mais il est l'heure maintenant de retrouver Martin Péné pour sa chronique très spéciale aujourd'hui. Bonjour Martin.
Bonjour Benoît.
Oui, très spécial parce que je vous ai pas encore vu souvent fêter des centenaires en direct sur les ondes. C'était le 1er mai dernier, les 100 ans de Daniel Darieux. C'est vous qui menez l'hommage que nous souhaitions lui rendre.
Et oui, parce qu'avec plus de 100 films et 8 décennies d'activité, elle incarne l'une des plus longues carrières du cinéma français. Et à l'écran, on peut dire que Daniel Darieux, c'est le charme personnifié. Il faut en effet se souvenir qu'avant Bébé, il y a eu Dédé, l'actrice à qui toutes les adolescentes des années 30 voulaient ressembler. Mais à l'inverse de Bardot, eh bien Darieux n'a jamais défrayé la chronique. Elle fut même pendant très longtemps réticente à se livrer. Témoin, cette archive de novembre 1957, lorsqu'on tente de lui faire dire quelques mots à l'occasion de la remise des victoires du cinéma français.
J'ai dans un petit coin Daniel Darieux, François Perrier, Bourville et Brigitte Bardot. Alors je voudrais que vous racontiez un peu chacun vos projets. Je ne vous demande pas si vous êtes bien content d'avoir reçu un prix, une belle victoire
verte. Bien sûr, naturellement.
On est toujours bien content, n'est-ce pas?
Mais ne me présentez pas toujours le micro parce que j'ai horreur de parler.
Mais je sais que vous avez horreur de parler, mais justement vos paroles sont tellement rares.
Mais pourquoi vous me le mettez comme ça sur le nez?
Parce qu'il faut. C'est pour des raisons techniques.
Ah bon. Non mais je suis très contente d'avoir gagné ce prix.
Je dois dire, d'ailleurs, cher Martin Péné, en réécoutant cette interview de 1957, que c'est une des raisons pour lesquelles, finalement, je n'ai pas beaucoup cherché à recevoir ici Daniel Darieux, parce que je crois qu'elle n'aimait pas tellement, jusqu'à une époque récente, parler d'elle, et encore moins de ses premières années.
Mais vous allez voir la suite, ouais, Benoît. Donc ouais. C'est vrai que pendant longtemps, elle ne s'intéressait qu'à l'avenir, mais elle a fini par devenir assez déserte au début des années 2000, acceptant enfin de se pencher sur son parcours et son exceptionnelle carrière d'actrice de cinéma, de théâtre et de chanteuse. C'est ce qui nous occupe un peu plus aujourd'hui. Elle, qui avouait dans les années 50 ne jamais avoir vu nombre de ses films, prend à nouveau plaisir à ce moment-là à regarder ses bobines de ses débuts. Et il faut dire qu'elle a démarré très tôt, à 13 ans et demi. Elle rêvait de devenir artiste et a eu la chance d'être engagée en 1931 pour tourner un rôle important dans Le Bal, d'après une nouvelle d'Irène Némirovski. Et le cinéma, à ce moment-là, le cinéma parlant, démarrait à peine et cherchait de nouveaux talents capables de jouer et de chanter. Et alors c'est vrai qu'elle avait de vraies dispositions musicales, qu'elle a appris le chant, le violoncelle et le piano grâce à sa mère qui était chanteuse lyrique. Et Daniel Darieux donc le raconte en 2002 au micro de son vieil ami José Arthur. Et là vous allez voir quand même qu'elle est un peu plus déserte.
Alors comment s'est passé le début? Vous étiez d'un milieu pas du tout de cinéma?
Non, pas de cinéma, mais j'étais quand même dans un milieu musical. Ma mère donnait des leçons de chant parce que papa est mort, j'avais 7 ans. Et il était ophtalmo, il nous l'a laissé sans un rond. Maman a toujours chanté parce que elle a même donné des récitals et tout ça. Et elle s'est mise à donner son chant pour nourrir ses 3 enfants. Et bon, elle donnait 3 jours à Paris, 3 jours à Bordeaux de leçons. Faut le faire à l'époque. Et bon, alors j'ai toujours été dans un milieu musical. Elle m'a appris à chanter, à me placer la voix. Justement, c'est à cause d'elle que j'ai chanté un peu quand même dans tous mes films.
On vous a fait chanter tout de suite?
Tout de suite.
Immédiatement.
Oui. Je pense que c'est à cause de... Parce que le gars, il m'avait entendu chanter avec maman, parce que maman me donnait son chant, c'était son rêve que je chante. Mmh. Alors bon, son rêve, je l'ai fait un
Donc il vous l'a trahi dans le bon sens du mot, il a dit, voilà. Elle sait chanter.
Voilà.
Et on l'a exploité tout de suite.
Et alors après, j'ai tourné des tas de comédies au cinéma, et le producteur m'appelait toujours, me disant, alors on va te jouer la chanson du film que tu vas chanter dans le film. Je dis, mais pourquoi je chante dans le film? Je suis pas une chanteuse. Oui, mais ça fait rien. Il faut que tu chantes une chanson par film.
Et pendant c'était l'époque des années, en plus. C'était l'époque où il fallait une chanson par
film.
Voilà,
une chanson par film et qui n'avait rien à voir avec l'action. Mais je me mettais à chanter.
Alors, vous avez chanteur duo, même avec des Pierre Mingand,
oui,
Gara,
oui,
des gens
oui,
qui ne disent
oui,
plus
oui,
grand-chose,
oui,
faut
oui,
bien
oui.
le dire.
Voilà.
Mais qui étaient des grands jeunes premiers de l'époque.
Ah, oui, c'est ça.
Je pars, tu pars, on part, allons autre part.
Par le soleil, les oiseaux, les abeilles.
Pour ce voyage, partons sans nos bagages.
Trois collets, deux mouchoirs, un peigne rasoir, soyons prudents, prenons la brosse à dents.
Mais le piano nous gênerait dans l'auto.
Allons, la route est belle, filons à tire d'aile.
Où roulons, chantons, rit, les boissons fleuries, les herbes douces, nous mangeons sur le pouce quand on est deux, le week-end est joyeux.
3 jours c'est court.
Mais ça suffit pour se connaître.
On fait un tour.
On fait sa cour.
Et puis autre chose peut-être.
Ça me dit c'est à midi. Jusqu'à lundi, 3 jours d'amour, 3 jours c'est court, mais c'est du bonheur qu'on savoure.
Un des nombreux duos avec Pierre Mingan, enregistré par Daniel Darieux, là c'est en 1935. Très jolie chanson d'ailleurs de Jean Nohain et Eisman avec en plus l'orchestre Valberg, Martin Péné.
Alors là, que, voilà, n'en jetez plus, c'était quand même le nec plus ultra de l'époque en termes de chansons. Et c'est vrai qu'elle incarnait la plupart du temps une gamine facétieuse et fantasque. Et puis elle avait donc pour partenaire Pierre Mingan, Henri Garat et surtout Albert Préjean. Alors on se souvient de La crise est finie, de Dédé, Quel drôle de gosse, Mademoiselle Mozart, Un mauvais garçon. Mais bon, je peux pas citer tous ces films, il y en a tellement. Et c'est vrai que sa voix juste et claire d'adolescente séduit les spectateurs. Et chaque film est aussi l'occasion donc de graver des disques 78 tours. Et ses chansons sont composées pour l'essentiel par Georges Vamparis, Valberg et Paul Misraki. Comme elle a débuté très jeune, elle ne prenait pas sa carrière très au sérieux cette époque-là, jusqu'à sa rencontre avec le réalisateur Henri Decoin, qui est devenu en 1935 son premier mari. Et la même année, Anatole Litvak lui fait tourner Meyerling avec Charles Boyer, la grande vedette masculine de l'époque. Et ce film obtient un succès mondial qui lui ouvre les portes d'Hollywood. Elle est engagée pour 7 ans, mais bon, elle n'y tourne qu'un seul film en 1938, La Coqueluche de Paris avec Douglas Fairbanks Jr. Et puis bon, elle préfère casser son contrat et rentrer en France. C'est alors que Maurice Tourneur lui offre le magnifique rôle de Katia. Et puis elle enchaîne plusieurs films à succès avec Henri Decoin jusqu'à Battement de cœur, sorti en 1940. Et elle y chante une ravissante chanson de Paul Misraki qu'elle reprendra en mars 1953 dans l'émission La Joie de Vivre qui lui sera consacrée.
Oh, je connais une devinette un peu bête, j'en conviens. La réponse sera vite faite. Je commence, écoutez bien. Mon premier, c'est un cœur timide qui pour moi ne saurait jamais mentir. Mon second, c'est deux bras solides où l'on peut si bien se blottir. Des baisers sonores, comme on aime à les imaginer, et mon tour, c'est l'homme que j'attends. C'est facile à deviner. Ah, vraiment, c'est une charade pour laquelle on ne cherche pas. Et pourtant vous restez en règle, vous donnez votre langue au chat pour que vous l'ayez bien en tête. Je la répète, écoutez-la. Mon premier, c'est un regard tendre. Mon deuxième, un sourire moqueur. Mon troisième, les mots que j'aime entendre. Et mon tout se trouve dans mon cœur. Il y tient même toute la place. Et c'est pour lui qu'il va à grand coup. Cette fois, je le vois, vous avez deviné que mon tour, c'est...
Une charade par Daniel Darieux dans La Joie de Vivre en 1953.
Oui, et par rapport aux habitudes de l'époque, Daniel Darieux joue de façon très naturelle, presque d'instinct. Alors on pense aussi dans ce genre-là à Arletty, Michel Simon, Jean Gabin, Charles Vanel ou Rému. Alors donc on arrive au début de l'occupation, elle tourne trois films produits par la société allemande Continental, Premier Rendez-vous, Caprice et La Fausse Maîtresse, qui connaissent un très grand succès populaire et leurs chansons sont sur toutes les lèvres. Et puis en 1942, elle préfère se mettre en retrait et le restera jusqu'à la libération. Elle n'est alors guère inquiétée, mais bon, il faut dire qu'elle est un peu passée de mode, sans doute trop associée aux souvenirs des années sombres dans l'esprit du public. Et sa carrière d'après-guerre connaît un certain ralentissement. Il faut attendre surtout les années 50, qui sont celles de la consécration d'une actrice capable d'incarner des personnages très divers. Et donc elle travaille avec de grands réalisateurs comme Max Ophuls, Claude Autant-Lara, Henri Decoing ou encore Julien Duvivier, qui lui offrent plusieurs rôles majeurs. Et le 8 avril 1956, Darieux fait partie des invités de La Joie de Vivre, à nouveau. La célèbre émission d'Henri Spahn, enregistrée en public dans la vaste salle de l'Alhambra, est consacrée ce jour-là à Claude Autant-Lara.
Nous avons les mêmes goûts pour le silence. Vous savez, quand vous criez tout d'un coup, oh là là, quelle horreur, qu'est-ce que c'est que ce silence?
Ah oui, oui, j'aime pas, c'est ça. J'entends le silence.
Il y a trop de silence, ça fait une impression un peu grave.
Vous ne supportez pas un plateau silencieux. Tenez, par exemple, alors on pourrait, par exemple, à l'instant même, empêcher le silence de s'établir ici sur ce plateau en demandant à l'orchestre de jouer simplement le refrain de la chanson que vous chantiez dans Occupe d'Amélie, pour vous le rappeler comme ça. Ce refrain, c'était non, tu ne sauras jamais. On va demander à l'orchestre de jouer le refrain.
Simplement. Hein,
simplement. Simplement. Je vous en prie, monsieur Rich, vous nous jouez le refrain de... Ah non, non, mais vous ne chantez pas, Daniel. Non, non, c'est pour nous faire entendre, bien sûr. C'est trop haut là, c'est trop. Là, si tu veux que je la fasse partir à chanter, jamais, parce que non. Parce que vous comprenez, voilà, le problème consiste à ne pas faire chanter Daniel Darieux. Daniel Darieux a peur de chanter devant vous. Alors, je ne veux pas la faire chanter, ce menton-là est beaucoup trop haut pour qu'elle démarre si jamais elle en a. Va.
Oh, toi, qu'en secret, j'adore. Si je t'aime ou si je te hais. Si je raille ou si je souffre encore, en vain dans mes yeux distraits, tu cherches à lire en moi-même. Tu voudrais savoir si je t'aime, mais je ne te le dirai. Amen.
Vous êtes fâché après moi?
Oui, très.
Non, mais écoutez, voilà, vous demandez, je vais tout leur dire maintenant, je leur dis tout. N'est-ce pas? Il y a quelques temps, je téléphone à Daniel Darieux et je lui dis, écoutez, il est évident que, évidemment, ça fera beaucoup de peine à Claude Autant-Lara, mais vous êtes beaucoup trop occupé pour venir dans sa joie de vivre.
C'est encore trop,
d'ailleurs. Alors, elle me dit, mais si je viendrai. Je lui dis, j'ai dit à Autant-Lara qu'il était absolument impossible qu'il compte que vous chantiez jamais. Non, tu ne sauras jamais, parce que, évidemment, vous avez tout à fait peur de chanter en public. Puis en ce moment, vous êtes très occupé, etc. Elle dit, mais si, je veux chanter. Je dis, vous savez, le seul ennui dans tout ça, c'est qu'il ferait venir répéter l'après-midi. Mais si, je viendrai. Et puis, plus de Daniel Darieux, elle partait le matin à 7h du matin, impossible de la joindre. Cet après-midi, Daniel Darieux, je suis méchant de dire ça, mais cet après-midi, Daniel Darieux téléphone, ici, elle dit, ah, je tiens à vous dire tout de suite que je viens ce soir. Ah, fiche, car j'avais très peur qu'elle ne vînt pas. Mais je tiens à vous dire que je ne chanterai pas du tout. Faites jouer l'heure par l'orchestre si vous voulez, mais moi, je ne le chanterai pas. Voilà. Vous faiblement remarquez que je n'ai pas demandé à Daniel Darieux de chanter. J'ai fait jouer l'orchestre. Et Daniel Darieux, emporté par son tempérament artistique, n'a pas pu s'empêcher de se laisser emporter par la musique de Rico. C'est vrai, non? C'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé.
Exactement.
Et comme Daniel Darieux ne se met jamais en colère, pas plus que Claude Autant-Lara, il est bien évident qu'elle ne peut pas m'en vouloir. Vous n'êtes pas fâché.
Voilà, les auditeurs d'aujourd'hui ne connaissent pas forcément cette émission extraordinaire qui a reçu tout le musical de l'époque, La Joie de Vivre d'Henri Spahn, que j'avais reçu ici même d'ailleurs. Donc ici avec Daniel Darieux en 1956 pour terminer cette première évocation, Martin Péné.
Oui, donc je voudrais quand même vous signaler deux doubles CD des enregistrements enregistrement de Daniel Darieux pour tous les amateurs. Et ces deux CD se complètent très bien, puisque le premier, c'est un double CD chez Frémo pour les années 30-40, et un autre chez Marianne Mélodie qui vient de sortir pour les années 50-60. Et c'est cette seconde partie de carrière que j'évoquerai dans ma prochaine chronique, toujours pleine d'archives de Lina, patiemment rassemblées par Catherine Louboutin.
Eh bien, merci Martin Péné. Donc, on continue avec Daniel Darieux dans quelques semaines.
Tous les tours des chants des années 60, etc.
Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier. Avec aujourd'hui à la technique Benoît Latil, Emmanuel Dupuis, Paul Simonacci, réalisation Christine Amado. Et samedi prochain, je recevrai l'une des plus grandes figures de la chanson française, ou du moins francophone, puisqu'il s'agira de Monsieur Luc Plamondon. Bon week-end à tous sur France Musique.